France Culture.
Oui, Claire Simon, c'est Marie Richaud à France Culture.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous ouvre, il faut monter un étage à pied et dans le couloir, il y a un ascenseur qui va au chef-d'œuvre.
Merci, à tout de suite.
Bonjour.
Bonjour. Comment
allez-vous ?
Ça va.
Donc là, il y a une partie.
Ah ouais.
Le Book Club.
J'ai renoncé à ranger pour votre...
Bah non, ouais. C'est bien qu'on la voit... Ça a l'air quand même assez bien rangé, non ?
Dans la bibliothèque de Claire Simon.
Oui, mais ça, c'est la partie...
Marie Richaud.
Dans laquelle je devrais mettre une autre partie.
Ah,
qui est dans
alors vous allez nous expliquer comment ça s'organise.
Claire Simon est cinéaste. Elle a filmé les traces invisibles de l'université de Vincennes dans les bois, par exemple. Elle a filmé des enfants en train de jouer, vivre, découvrir, se parler, se taper, dans les films Récréation et le tout récent documentaire Apprendre. Elle a mis en scène une conversation où Yann Andrea, auteur et amant de Marguerite Duras, raconte son histoire passionnelle avec elle. Le film était interprété par Swann Arlot et Emmanuel DeVos. Il s'appelait « Vous ne désirez que moi » et c'est un film qu'on n'oublie pas. On peut dire que le cinéma de Claire Simon, quelle que soit la forme qu'il prend, est attentif aux éclats de fiction, de romanesque, de magie presque, présents dans le réel, dit-elle, qui n'existe que si on lui adresse des questions. Lorsque nous la rencontrons chez elle, son film « Apprendre » vient tout juste de sortir. Elle en prépare un autre sur la lecture de l'œuvre d'Annie Ernaux par des jeunes gens. Et il y a beaucoup de livres chez elle, tout de suite. Et si elle dit qu'elle a choisi les textes qu'elle partage avec vous totalement au hasard, vous allez entendre que le hasard fait parfaitement les choses.
Alors, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Donc il y a un premier temps qui se demande où sont les livres ?
Bon,
chez Claire Simon. Déjà tout de suite, ils sont là.
Voilà, alors ça c'est la partie tout ce qui n'est pas les romans.
Ok.
Sauf par endroit des trucs où je suis en cours de travail, là, tout ça.
Ok.
Mais sinon, c'est tout ce qui est. Ça c'est la philo et la psychanalyse. Et puis là, c'est les livres de cinéma. Et puis après, c'est les livres d'art. Et puis, tous les catalogues de cinéma, voilà.
C'est un mur complet, quand même,
ouais.
C'est conséquent. Puis tout à l'heure, on a été posé nos manteaux dans votre chambre. Il y avait aussi des livres.
Ouais.
Donc, un des premiers constats, c'est de dire qu'il y a beaucoup de livres chez vous.
Moi, j'ai un copain qui a le double, alors.
Ok.
Voilà.
Oui, il y a toujours des gens qui ont plus de livres que nous.
J'ai toujours eu des livres, mais pendant très longtemps, j'allais à la bibliothèque municipale.
Ouais.
Donc, les livres que je lisais, je les rendais.
Ouais. À partir de quand vous vous êtes mis à acheter des livres pour vous et à les garder ?
Oh, j'ai commencé par voler, je crois.
Ouais.
Mais quand j'avais, 25 ans, 26 ans, mais c'est vrai que je continuais à aller à la bibliothèque, beaucoup, ouais.
Parce que vous avez toujours beaucoup aimé lire ?
Plus ou moins.
Plus ou moins ?
Ouais.
C'était quand que c'était plus et c'était quand que c'était moins ?
Je sais pas, non, mais j'ai essayé de rattraper mon... Comme je suis considérée comme une autodidacte, j'ai essayé de rattraper mon ignorance en lisant des livres, un peu.
Vous êtes considérée comme une autodidacte, c'est-à-dire que c'est les autres qui disent ça de vous ou c'est
ouais.
Vous qui dites ça de vous ?
C'est les autres.
Ouais. Et vous, vous dites quoi ?
Ouais, j'ai pas fait d'études, j'ai fait un peu d'études d'ethnologie et d'arabe classique et de berbère, mais j'ai tout de suite travaillé dans le cinéma. Ouais. Mmh.
Donc ils ont raison ou ils n'ont pas vraiment raison de dire
ça ? Je sais pas, je viens d'une famille quand même plutôt bourgeoise,
ouais.
Donc j'ai pas le droit de... Il y a des gens qui vraiment sont... Je veux dire, il y avait des livres chez moi,
ouais.
Il y en avait moins que ce que j'ai, mais il y en avait.
Il y avait quoi ? Vous étiez entourée de personnes qui lisaient ?
Mon père était paraplégique, donc forcément il lisait. Puis il aimait beaucoup la peinture, ma tante était peintre, donc il y a beaucoup... J'ai hérité de tous ces livres de peinture et tout
qu'on
ça.
Qu'on voit à gauche, là ?
Ouais.
Ouais.
Ouais, ouais. Et puis...
Ça, c'était les catalogues qu'avait votre père, des catalogues de peinture ?
Ouais, c'est pas que des catalogues.
C'est des aussi livres. Des livres, ouais, ouais, en ouais. Effet, ouais.
Mm-hmm. Puis il y en avait que j'avais moi, mais enfin, disons que les gros livres qui coûtent cher, c'était lui.
C'était lui, ouais.
Voilà. Et puis, par exemple, là-haut, mon oncle était poète Et il avait fait une revue chez Macht qui s'appelait Argile. Donc,
oui, Claude c'était un Esteban. Milieu qui était assez, on va dire, sensible à la chose littéraire, quoi. Ça
ouais,
existait.
Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Enfin, surtout mon oncle, qui était traducteur des grands écrivains espagnols, enfin hispanophones, quoi.
Vous les signalez tous les deux parce qu'ils auraient été actifs dans la transmission d'un goût pour la lecture ou pas forcément ?
Plus ou moins. Moi, j'étais assez énervée quand j'étais adolescente et jeune fille. Donc, tout ce qui venait de m'exaspérait.
De qui ? De vos parents, vous voulez dire ?
Ouais, de la génération au-dessus, j'étais...
Même eux ? Même oncle et tante ?
Ouais, ouais, ouais. J'étais plus radicale que ça, quoi. Voilà.
Donc, c'était pas bon à prendre ?
Si, mais je trouvais ça un peu has-been, ouais. Quoi. Voilà. Après, je me suis calmée, mais disons qu'au début, j'étais... Moi, je lisais, quand j'avais 14 ans, je lisais Faulkner, Joyce, des trucs comme ça, un peu difficiles.
Énervée. Ouais.
Je voulais pas du tout faire la bonne élève de la bourgeoisie. C'est la raison pour laquelle j'ai pas fait d'école de cinéma, parce que j'étais très prétentieuse et je pensais que s'il fallait faire... une nouvelle forme, eh ben, c'était pas dans une école que j'allais l'apprendre.
En même temps, c'est un réflexe intéressant.
Ouais, ouais, ouais. Mais bon, j'ai regretté parce que je vois... Ensuite, j'ai longtemps enseigné dans une école et puis à la fac. Et j'ai bien vu que c'était formidable d'avoir des copains qui faisaient la même chose que vous, avec qui discuter et tout. Parce que moi, du coup, j'étais très seule, quoi. Mais j'ai pu faire à l'école, et j'adore certains étudiants avec qui j'ai travaillé, etc. J'ai pu faire ce que moi, j'aurais aimé faire dans une école.
Vous avez pu inverser la transmission.
J'ai tout le temps fait ça.
Vous êtes passé rapidement, Claire Simon, sur le fait qu'il y avait de la philosophie et de la psychanalyse.
Ouais.
Peut-être on peut y revenir. Ça occupe tout un pan de cette première bibliothèque.
Oui.
Vraiment,
j'ai une fille philosophe.
Ah oui, alors en effet, ça aide là aussi, transmission
non,
à l'envers.
Non, c'est dans l'autre sens, c'est moi qui avais les livres avant.
Ah bon ?
Et d'ailleurs, elle dit qu'elle avait été exaspérée parce que je lisais l'herméneutique du sujet, voilà, et que, voilà, ça, ce livre-là, et qu'elle trouvait ça, mais insupportable d'écrire un bouquin avec un type très pareil,
oui.
Que personne, alors qu'elle a fait un mémoire sur Foucault.
Et comment vous, on peut dire son nom, c'est Manon Garcia.
Ouais.
Comment vous en êtes venue à lire l'herméneutique du sujet de Michel Foucault?
Parce que j'aimais beaucoup Foucault, je trouvais ça super intéressant, j'en ai lu pas mal. Hein.
Ouais, ça se voit d'ailleurs, ouais. Ça occupe une bonne place.
Là, il y a le livre de Manon. Le premier.
Et je vois, là, je me promène un peu complètement au hasard, mais donc Nietzsche a une petite place aussi, Jacques Rancière, Deleuze et Guattari, j'ai vu, Spinoza. Bah, ça fait de vous quand même une lectrice de philosophie, j'entends.
J'aime bien, ouais.
Ouais. Depuis toujours. Enfin, depuis quoi, votre jeune âge adulte?
Ouais, j'ai toujours. Bah, c'est-à-dire. Quand j'étais très déprimée, adolescente, je lisais soit de la poésie, soit de la philo.
Et ça marchait ?
Ouais. Ouais, très bien.
Ouais. Ouais. Pourquoi ça marche, d'ailleurs ?
Ben parce que ça me donnait du courage, quoi. Je me souviens, je lisais de la poésie, Rimbaud, tout ça, pour trouver un frère de tristesse. Et puis la philo... pour comprendre le monde, pour comprendre ses sentiments, les sentiments qu'on a, tout ça.
Voilà. Et c'est toujours un peu ça, vos dynamiques de lecture, trouver des frères, des sœurs et comprendre le monde ? Ou il y a d'autres choses depuis ?
Non, maintenant j'aime mieux... J'ai mis longtemps, mais maintenant j'aime beaucoup les romans. J'ai mis du temps, quoi. Ça, au début, j'étais très radicale, voilà. Je vous dis, Joyce, Faulkner...
Et la philo.
Et la philo.
Et Rimbaud. Et la psychanalyse, alors ?
Ouais, bah, j'en ai lu beaucoup, j'en ai fait, tout ça. Maintenant, c'est-à-dire qu'il y avait c'est très intéressant, mais il y a quelque chose d'un peu trop... comment on pourrait dire ?
Dans la pratique ou dans la théorie, là, du coup ?
Non, dans la théorie, de la typologie des esprits, des pensées et tout, qui très vite tourne à vide, quoi. Voilà, enfin, je trouve un peu. Après, vous verrez, dans un des textes que j'ai choisis, on peut dire bah, la puissance du signifiant est extraordinaire.
Ah ouais, c'est lequel ?
Celui de Camille Laurence.
Ah ouais. Ouais. Sur le « Encore » et la répétition. D'ailleurs, « Encore », c'est le titre d'un séminaire de Jacques Lacan.
Ouais. « Encore et jamais ». Voilà.
Qu'est-ce qu'on vous suit alors pour trouver d'autres endroits ?
Ensuite, donc il y a les romans et tout ça, la poésie.
Mais là, vous arrêtez pas devant celle-là ?
Non, parce que ça se passe comme ça. D'abord, il y a la poésie, les Pléiades, ce que j'ai hérité de mon père, la comédie humaine en Pléiades, qui était un cadeau d'un copain à lui. Donc,
mais que lui lisait, que vous avez lu à votre tour, du coup ?
Ouais, mais j'ai pas tout lu. Hein. Ouais. J'en lis des morceaux de temps en temps. Je sais pas, La recherche du temps perdu, voilà, les Pléiades. Et puis après, il y a de la poésie, comme ça. Et puis là, c'est les romans qui commencent, je sais plus où, par là. Voilà.
Au-dessus de la poésie.
Voilà. Ouais. Et puis, ça va jusqu'au polar, là-bas.
Tout ça dans l'ordre alphabétique, on est d'accord ?
Exactement.
Ouais, bravo.
Exactement. Là, il y a des livres en anglais aussi, puisque ma mère était anglaise, et des polars.
Voilà. Ça fait pas mal de romans, tout ça, quand même, Claire Simon.
Ouais, mais j'ai pas tout lu. Hein.
Ah oui, d'accord.
J'en ai lu...
Les quoi ? Deux tiers ?
Plus.
Plus. Oui. Est-ce que ça, c'est un dessin de Vous ne désirez que moi ?
Oui. Voilà. Et ensuite... Ça, c'est de nouveau les romans dans l'ordre alphabétique que j'ai lus, disons, depuis 10 ans ou 5 ans.
Ah oui, et on repart au début.
Il faudrait que je les remette. Voilà, okay. C'est ça que je n'ai pas fait avant votre venue.
Bah, en même temps, ça aurait été vraiment beaucoup trop sympa.
Voilà. Non, mais je n'ai pas le temps là en ce moment. Et là, c'est plutôt le théâtre.
On n'a pas beaucoup dit de nom, mais si par exemple je me promène rapidement dans les choses lues récemment, donc il y aurait Aaron Appelfeld par exemple hein, Pierre Bergoglio,
Coetzee,
plein de Pierre Bergoglio, Coetzee, un peu de Carrère, un peu de Despentes, un peu de Yann Andrea.
Ah bah ouais, là bah j'ai tout lu. c'est obligé
pour ce fameux film, du coup, Vous ne désirez que moi. Modiano aussi.
Ah ouais, j'adore.
Chimamanda Ngozi Adichie.
Et en plus, j'aurais dû prendre un morceau de Modiano parce qu'il y a un livre, je crois que c'est pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, où je me suis retrouvée en train de le lire.
Dans
il parle de l'immeuble qui est en face de chez moi.
Ah ouais.
Ouais, c'est très marrant. Et là aussi, pardon, c'est dans les toilettes, c'est les livres en cours ou que j'ai pas fini ou que je devrais reprendre.
En cours, c'est de lecture en cours ?
Ouais, j'en ai.
Je peux regarder ?
Ouais.
Non, mais il y a plein de bouquins en cours quand même.
Oui, mais il y en a que j'ai fini, il y en a que je sais pas. Vous voyez, j'ai plus la place de les ranger là, donc voilà, il faut que je re-range tout.
Ok.
Voilà.
C'est un projet de bien ranger votre bibliothèque ?
Oui, ça serait mieux, oui. C'est pratique que ça soit bien.
Parce que vous travaillez avec cette bibliothèque ?
Je m'en sers, oui. Par exemple, à un moment, j'ai tout repris Pérec, parce que j'adore Pérec.
Concrètement, y a des idées de films ou des moments de votre vie de cinéaste qui s'appuient sur des lectures ?
Ben là, dans le film que je fais en ce moment, oui, mais c'est très exceptionnel.
Et vous pouvez nous en parler ?
Oui, je fais un film qui m'a été commandé par la grande librairie sur Annie Arnaud.
Ah d'accord.
Et sur l'œuvre d'Annie Arnaud. Et moi, j'ai choisi non pas de l'interviewer parce qu'il existe déjà un film, en tout cas que j'ai vu, que je trouve formidable, de Michel Porte. Et moi, je me suis dit, à quoi ça sert de refaire deux fois la même chose ? Et donc, moi, j'ai proposé d'aller dans les lycées parce qu'elle était au programme. Et grâce à Pierre-Louis Faure, qui a fait les cahiers de Lerne d'Annie Arnaud, j'ai rencontré j'ai écrit à tous les profs qui connaissaient, qui aimaient Annie Arnaud. Et donc, j'ai fait un parcours en France, dans plein de lycées, en filmant des cours. Enfin, c'est pas vraiment des cours, c'est plutôt des élèves qui discutent en classe. Et puis après, je filmais les élèves qui discutent entre eux sans le professeur. Et c'est ça qu'on est en train de monter, voilà.
Magnifique. Et ce sera pour la télé?
Ben, je sais pas, oui, pour la télé d'abord et avant tout, et puis si jamais... c'est un film sur la jeunesse, quand même, malgré tout. Hein. Mais est-ce que... Je sais pas, c'est tellement dur de sortir un film. Mon film à prendre, là, je fais plein de rencontres et tout pour ce qui est plus de public, mais le documentaire, c'est vraiment dur, quoi. Vous voyez?
Alors, allez en salle voir, apprendre. Donc, on a fait le tour, là, c'est pas mal, quand même. Hein.
Ça va?
Bah,
c'est assez sérieux.
Ouais, c'est sérieux, hein.
Bon, c'est bien.
C'est du sérieux, cette histoire.
Parce que j'ai planté des graines de rose très mûres et elles sont en train de sortir.
Les bijoux de la reine sont en partie cachés dans un endroit moderne, jamais révélé. Son déclin. Pour les arrêter, c'est derrière mes oreilles que j'ai dû cacher les bijoux de la reine. Vous les appréciez.
Voilà. Là, par contre, j'ai planté des noyaux de nèfles.
Le book club.
J'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup. Mais enfin, les roses très bien, là, elles sont en train de sortir.
Dans la bibliothèque de Claire Simon.
Voilà. Parce que j'ai un très beau balcon.
Marie Richeux.
On passe au deuxième moment de votre bibliothèque.
Alors moi j'avais pris ces trucs-là, mais c'est un peu le hasard, quoi.
C'est-à-dire? Vous avez fermé les yeux, vous avez fait...
Non, mais je me souvenais de ça, de ce truc de Camille Laurence qui m'avait vraiment scotché, ce livre-là, encore et jamais. Parce qu'elle raconte comment... je sais pas, les mots ont une puissance magique, quoi. Mm. Je me souviens plus tellement des autres chapitres, je l'ai lu il y a longtemps. Mais alors, vraiment...
C'est sous-titré « Variation », parce que si j'ai bien compris, dans ce livre-là, elle c'est plusieurs variations sur la question de la répétition.
Oui, et de la puissance des mots, quoi, de ce qu'ils contiennent. Et cette histoire qu'elle raconte, d'ailleurs, c'était bien que je le relise parce que c'était pas exactement ce dont je me souviens, mais je trouve ça extraordinaire.
On lit l'extrait, peut-être après on en parle. Super.
J'ai eu un fils, je l'ai appelé Philippe. Après sa mort, j'ai écrit un livre, je l'ai appelé Philippe. Ce n'est pas la même chose, non. Ce ne sont pas des jumeaux que j'aurais mis au monde à un an d'intervalle, ni des frères, l'un mort, l'autre vivant, à qui j'aurais donné, pour suivre une tradition familiale, le prénom du défunt. Les enfants ne se reproduisent pas dans les livres, les pages ne respirent pas, même pas dans les blancs. Ce récit, pourtant, répète ou balbutie des syllabes qui ne sont pas étrangères au corps de Philippe. C'est parce que je suis sa mère. Il y a une analogie entre le petit livre et le petit garçon. Des traits qui se font jour, des échos. La langue le berce, douce plainte. Chaque fois qu'on me parle de mon livre, j'entends le prénom de mon fils. Philippe n'est pas un titre, c'est un nom. Je ne le prononce pas sans y penser. Je l'ai confié à un éditeur comme on confie un enfant. Quelques mois après la mort de Philippe, un professeur en médecine qui commentait devant moi le dossier dont il avait fait l'expertise, il dépliait la courbe du moniteur où l'on voyait se dessiner d'abord l'accélération anormale du cœur de Philippe, puis son ralentissement mortel. Évoquant une faute grave de l'obstétricien, il concluait par ces mots « Il aurait dû faire immédiatement une césarienne, le sortir tout de suite. Au contraire, il l'a laissé s'épuiser. » 15 ans plus tard, alors qu'à la suite d'un violent conflit avec mon éditeur, je demandais à récupérer les droits de mon livre parce que je ne voulais pas qu'il reste dans cette maison, je voulais le sortir de là. Je l'entendis refuser catégoriquement de me le restituer et conclure par ces mots « Ce que je peux faire, en revanche, c'est le laisser s'épuiser. Voilà, j'avais trouvé ça fou, ce mot épuisé, qui revient deux fois, quoi, à 15 ans d'écart. Et ce qui est fou, évidemment, c'est qu'elle l'ait entendu à chaque fois, le mot épuisé.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que finalement, ce qui est fou, c'est l'écoute que fait Camille Laurence de cette répétition et comment elle s'en saisit.
Voilà, voilà. Mais c'est des choses qui arrivent souvent, enfin souvent. Je remarque quand je tourne ou des trucs comme ça qu'il y a des mots qui rayonnent comme ça et qui induisent. Mais là, c'est vraiment, je trouve ça tellement terrible, cette histoire.
Mais est-ce que vous diriez pas, Claire Simon, que si vous le remarquez ou si Camille Laurence le remarque, c'est que précisément vous y êtes toutes les deux attentives pour des raisons qui vous appartiennent. Mais vous avez dit tout à l'heure, il y a au moins un des bouquins qui parle de la puissance du signifiant, mais il faut y être attentif et attentive à cette puissance-là, non ?
Ah bah oui, oui, bien sûr.
Et
oui.
Y être éventuellement intéressé ou sensible. Oui. Non,
oui,
je ne sais pas, je
oui,
dis
oui,
ça
oui,
comme ça.
Oui, bien sûr, oui, oui. Mm. Oui, oui. Mais c'est-à-dire que, évidemment, c'est ce truc de la psychanalyse, c'est quelque chose qui a à voir avec la magie. On se dit qu'il y a des portes magiques. Voilà, là, on a ce mot qui revient deux fois et qui décrit une fois l'enfant et l'autre fois le livre. Mais voilà, moi, toute ma jeunesse, j'ai beaucoup lu de psychanalyse. Et il y avait cette idée, même chez Dolto, par exemple, de quelque chose de magique, quoi. Comme si, bon, ben, Dolto, elle arrivait à parler aux enfants, c'était, elle comprenait un bébé qui pleure, elle lui disait deux trucs et rigolait, voilà, magique, quoi. C'est comme si on avait cru qu'il y avait de la magie, vous voyez.
Alors qu'il y a quoi, si on utilise d'autres termes, de l'inconscient, peut-être ?
Il y a de l'inconscient,
il y a du langage,
il y a
des
du corps. Désir, ouais. il y a voilà, oui, oui. Mais je pense que pendant un temps, la psychanalyse a eu cette espèce de, on croyait que c'était de la magie. Mm. On croyait que, mais moi, mon père était paraplégique, hein, donc très gravement paraplégique. Il a passé 28 ans à l'hôpital. Eh bien, moi, j'étais assez bête pour croire que la psychanalyse pourrait le guérir, ce qui est ridicule, quoi. Mais franchement, ridicule. Mmh. Voilà.
Mais en même temps, j'imagine qu'on fait ce qu'on peut quand on a envie que son père guérisse, non ?
Oui, mais bon, c'était ridicule.
Ce qui vous intéresse dans le choix que vous faites là de Camille Laurence, encore et jamais, est-ce que c'est plus large que ce texte-là ? Est-ce que la question de la répétition, y compris par exemple...
Ah, mais je trouve ça extraordinaire, oui. Je trouve ça extraordinaire, oui. Très, très fort.
Mais dans les vécus psychiques ou même, par exemple, dans les formes, je ne sais pas, utiliser la répétition au cinéma ou la répétition dans la littérature ou dans les poèmes, c'est quelque chose à quoi vous êtes sensible ?
Oui, oui, oui. Je trouve... c'est-à-dire que moi, j'ai une vague théorie qui vient de Sophocle, je pense, qui est que les histoires flottent, si vous voulez. Et elles choisissent des victimes. Voilà.
Comme les morts.
Voilà. Elles flottent comme ça. Et paf, comme Oedipe, il a beau faire tout ce qu'il veut, etc. C'est écrit, il sera... il épousera sa mère, il tuera son père, etc. Et je le ressens beaucoup, ça. Je
trouve c'est des histoires qui poussent pour être racontées, quoi.
Qui poussent pour être incarnées, surtout, hein.
Ah, vous voulez parler carrément de nos vies, pas tellement des histoires qu'on raconte.
Ouais, ouais.
Ah, de nos vies. Ouais. Les histoires flottent dans l'air et en fait, elles
choisissent.
Les histoires de vie, les destins, c'est un peu des destins dont vous parlez. C'est un peu ça ?
Ouais.
Et c'est comme ça que vous voyez votre vie ?
Non, mais par exemple, là, je travaille sur un scénario qui raconte quelque chose de cet ordre, oui, de ce qui se répète.
Dans les histoires de vie, par exemple, dans les généalogies, par exemple. Qui va porter cette histoire pour la répéter ?
Voilà.
Ok,
voilà.
Sans qu'on sache que c'est une répétition.
Voilà.
Et ça vous fait sourire ou vous trouvez ça terrible ?
Ce qui est intéressant dans la répétition, c'est quand on arrête la répétition et qu'il y a une transformation. Mmh. C'est évidemment ça qui est très intéressant. Ça suppose d'en avoir un peu conscience, quoi. Voilà.
On va vers un deuxième choix ?
Ah ben là aussi, c'est la psychanalyse. Eugénie Dès, je ne me souviens plus. J'ai adoré ce roman, mais je ne me souviens plus.
Alors, un roman qui s'appelle Le roman du mariage, c'est ça ?
Voilà. Et, alors attendez, il faut que je retrouve, voilà.
Comme ça, j'en profite pour dire que ce que vous allez lire est traduit par Olivier de Paris, que le roman du mariage a paru aux éditions d'Olivier. Auteur américain, il commence par publier des nouvelles dans les années 90. Et ça, c'est son troisième roman.
À l'époque, 2011. Quand je l'ai lu, j'ai recopié ce passage.
Ah ouais ?
Parce que c'est très intéressant, Bon, ma mère était un peu maniaco-dépressive. Donc là, il s'agit d'un délire maniaque.
Ok.
Ce qui est
d'une femme ou d'un homme ?
D'un homme, de Léonard, un des deux fiancés de Madeleine. Voilà. Et donc, il a un moment où il est très content. Voilà. Le fait d'être seul augmentait le volume des informations qui bombardaient Léonard. Personne n'était là pour l'en distraire. Tandis qu'il marchait d'un bon pas, les pensées s'amoncelaient dans sa tête comme les avions au-dessus de Logan Airport au nord-ouest. Il y avait deux ou trois gros porteurs remplis de grandes idées, toute une flotte de 707 chargée des impressions sensibles, la couleur du ciel, l'odeur de la mer, et des Learjet avec à leur bord de riches pulsions solitaires qui souhaitaient voyager incognito. Tous ces appareils demandaient en même temps la permission d'atterrir. Depuis sa tour de contrôle intérieure, Léonard les guidait, leur ordonnait de continuer de tourner, les déroutait vers d'autres aéroports. Le flot ne cessait jamais. Léonard devait coordonner les arrivées depuis la minute où il se levait jusqu'à celle où il allait se coucher. Mais c'était un vieux de la vieille à présent. Après deux semaines à Maniaque, juste qu'il faut international, l'œil rivé sur son écran radar, il était capable de faire atterrir chaque avion à l'heure tout en échangeant des plaisanteries viriles avec son collègue assis à côté de lui en mangeant un sandwich comme si c'était facile. L'aisance des pros.
Incroyable cette description.
Je trouve ça génial. Voilà. Je trouve ça extraordinaire de... Pourtant, moi, je ne suis pas maniaco-dépressive, etc. Mais c'est une telle description magnifique de ce que ça peut être qu'une exaltation. Et je trouve ça génial. Le maniaque juste qu'il faut international, l'aéroport.
Et puis aussi la possibilité de donner le change, parce qu'il est presque pro de ces montées délirantes.
Voilà, et que tous les gros porteurs des grandes idées, je trouve ça absolument génial. Et d'ailleurs, il y a un film formidable d'un ancien de la Fémis qui s'appelle Diego Governatori, qui s'appelle À la folie, je crois. Et qui est
sur son ami
qui est autiste et qui est un type génial. Et à un moment, il va pas bien. Enfin, il dit voilà, c'est facile pour tous les gens normaux. Ils conduisent l'avion. Il y a le moment où il faut atterrir. Tandis que nous, les autistes, on se scratch à tous les coups. Et c'est marrant cette métaphore de l'avion, quoi. À chaque fois, pour ce qui concerne la folie, c'est intéressant. J'adore ce morceau. Je me souviens, je l'avais recopié vraiment parce que je trouvais que c'était d'une justesse incroyable, quoi.
Mais est-ce que, par exemple, ça nous raconte quelque chose de vous en tant que lectrice, Claire Simon, parce que vous dites au passage, ok, ma mère, par ailleurs, était maniaco-dépressive. Quand on est enfant, c'est difficile à lire, c'est difficile à comprendre. Peut-être on n'a pas ces mots-là, j'imagine. Ou peut-être vous les aviez, je ne sais pas. Est-ce que lire des textes qui décrivent ça, ça permet d'appréhender dans l'après-coup quelque chose qu'on n'a pas bien compris dans l'enfance, par exemple ?
Oui, mais quand j'étais vraiment petite, ma mère l'était très peu. Elle l'est devenue plus après. Puis j'ai une amie aussi qui était maniaco-dépressive et je voyais son état, quand elle était en état d'exaltation, ça ressemblait exactement à ça.
Ça ressemble à quelqu'un qui demande à pas mal de machines d'atterrir en même temps.
Voilà, c'est ça. Et ce qui est très touchant, c'est que ça n'est jamais qu'une exaltation. C'est pas non plus un crime, quoi, vous voyez ? C'est... tout d'un coup, tout paraît vachement intéressant. Ben ouais, on va faire ça et tout. Et y en a qui, comme mon ami, qui se font interner pour ça, quoi. Voilà. Alors que ce n'est que de l'exaltation. C'est un truc qu'il faudrait juste baisser un peu, quoi.
Surtout si personne ne se fait de mal.
Oui.
C'est ça le plus important. Voilà. Par ailleurs, ce livre-là, Le roman du mariage, c'est, en dehors de ce passage, c'est un livre qui vous avait plu ?
Énormément, mais je ne m'en souviens plus.
Ok.
Je suis désolée.
Non. Énormément. En même temps, c'était très précis.
Vous avez visé
quelque chose de très précis.
C'est ma fille qui m'avait dit de lire ça. Et d'ailleurs, quand je retrouvais plus ni aucun nom, je lui ai envoyé un texto en lui disant « Tu sais le livre que tu m'avais conseillé ?» Elle m'a répondu tout de suite.
Vous suivez ses conseils de lecture ?
Oui.
Ouais.
Ok. Ouais, ouais.
C'est bien d'avoir des gens qui vous prodiguent des bons conseils de lecture, c'est précieux.
Oui, ouais. Oui, tout à fait. Mais elle, comme elle travaille énormément, elle lit plus beaucoup de romans, quoi. Mais quand même, on discute sur certains romans qu'on lit l'une et l'autre. Parfois, on n'est pas du tout d'accord. Elle m'a dit « t'es vraiment réac à Noël
». C'est de bonne guerre, non ?
Ouais.
Faut au moins ça.
Oui.
Rappelez-vous que vous avez été une adolescente très, très énervée. Vous nous le disiez tout à l'heure.
Très énervée.
Ouais, elle n'est plus du tout adolescente. Troisième choix ?
Alors, comme je travaille sur Annie Arnaud, j'aurais pu choisir plein de trucs. Mais il y a une chose dont j'ai gardé toujours le souvenir, c'est le début de...
Ah oui, de Passion Simple.
De Passion Simple, le tout début. Parce que sinon, c'est un peu de la triche, parce que là, je suis plongée dans Annie Arnaud. Voilà. Et toujours, je me souvenais de ça. Cet été, j'ai regardé pour la première fois un film classé X à la télévision sur Canal+. Mon poste n'a pas de décodeur, les images sur l'écran étaient floues, les paroles remplacées par un bruitage étrange, grésillement, clapotis, une sorte d'autre langage, doux et ininterrompu. On distinguait une silhouette de femme en guêpière avec des bas, un homme. L'histoire était incompréhensible et on ne pouvait pas prévoir quoi que ce soit, des gestes ou des actions. L'homme s'est approché de la femme, il y a eu un gros plan, le sexe de la femme est apparu, bien visible dans les scintillements de l'écran, puis le sexe de l'homme en érection qui s'est glissé dans celui de la femme. Pendant un temps très long, le va-et-vient des deux sexes a été montré sous plusieurs angles. La queue est réapparue entre la main de l'homme et le sperme s'est répandu sur le ventre de la femme. On s'habitue certainement à cette vision. La première fois est bouleversante. Des siècles et des siècles, des centaines de générations, et c'est maintenant seulement qu'on peut voir cela, un sexe de femme et un sexe d'homme s'unissant, le sperme. Ce qu'on ne pouvait regarder sans presque mourir, devenu aussi facile à voir qu'un serrement de main. Il m'a semblé que l'écriture devait tendre à cela. Cette impression que provoque la scène de l'acte sexuel, cette angoisse et cette stupeur, une suspension du jugement moral. À partir du mois de septembre de l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme. Qu'il me téléphone, qu'il vienne chez moi. J'allais au supermarché, au cinéma, je portais des vêtements au pressing, je lisais, je corrigeais des copies, j'agissais exactement comme avant, mais sans une longue accoutumance de ces actes, cela m'aurait été impossible, sauf au prix d'un effort effrayant. C'est surtout en parlant que j'avais l'impression de vivre sur ma lancée. Les mots et les phrases, le rire même, se formaient dans ma bouche sans participation réelle de ma réflexion ou de ma volonté. Je n'ai plus d'ailleurs qu'un souvenir vague de mes activités, des films que j'ai vus, des gens que j'ai rencontrés. L'ensemble de ma conduite était factice. Les seules actions où j'engageais ma volonté, mon désir et quelque chose qui doit être l'intelligence humaine, prévoir, évaluer le pour et le contre, les conséquences, avaient tout un lien avec cet homme.
C'est vrai qu'il est saisissant ce début de,
ouais.
De roman Passion Simple d'Annie Arnaud.
Oui. Qui est un très très beau livre, hein, qui est vraiment un livre magnifique et qui est le récit d'une passion qui prend toute la place. Mais là, je me souvenais de ce truc incroyable, de ce début du film X, non décodé, et que ça la bouleverse. Ouais. C'est ça qui me surprenait le plus.
Il y a deux choses, je trouve, hyper belles qui se passent là, dans... parce que c'est vraiment un premier paragraphe, c'est qu'à la fois, on pourrait s'attendre à plein d'autres choses que son émotion, quoi, sa grande émotion. J'allais presque dire pure émotion, quoi.
Oui.
Et le fait que d'emblée aussi elle en fasse un truc intellectuel en disant dès lors l'écriture ça doit tendre vers ça.
Oui. Voilà. Oui, oui. Mais parce que je pense que. Alors là c'est lié au tournage, mais que pour Annie Arnaud, la sexualité, l'orgasme, etc., c'est quelque chose qui est. Elle dit à la fin de la honte que c'est là qu'elle existe. Mmh. Mmh. Voilà. Et donc, c'est... voilà, tout le monde n'est pas obligé de penser comme
Bien
ça.
Sûr, ouais.
C'est son histoire et c'est son... c'est ce qu'elle poursuit, quoi.
En écoutant le début de Passion simple, j'ai quand même aussi pensé à ce film autour de la passion entre Yann Andrea et Marguerite Duras. Ce qui est très beau, c'est que... J'écoutais les mots de Ernaud qui disait c'était presque en parlant. Qu'est-ce qu'elle dit ? C'était en parlant que je faisais le plus semblant, non ?
Oui, c'est ça.
Et vous, vous faites un film sur la passion par le langage. Enfin,
ouais.
C'est vraiment que la puissance des mots pour le dire, Claire Simon.
Oui, oui, oui. Enfin, j'ai quand même, il y a quand même les dessins de Judith.
En effet. Ouais.
Qui, quand Michel Manceau rentre chez elle et qu'elle s'endort, elle voit. Ce que Yann Andrea lui a dit, c'est-à-dire, il lui a dit « Je n'ai jamais fait l'amour avant de rencontrer Duras », parce qu'il y avait toute une espèce d'idée comme ça que c'était un couple qui faisait pas l'amour, que cette passion était intéressée de la part de Yann Andrea, que... Bon, moi, j'avais vraiment l'impression, en lisant « Je voudrais parler de Duras », qui est le texte de l'interview, que c'était pas... Enfin, je voyais pas comment il aurait menti. Parce que ces cassettes ont été enregistrées 2 ans après qu'il se mette à vivre avec Duras. Ces cassettes n'ont jamais été écoutées par personne avant 2016, qui était la date de la mort de Yann Andrea, et c'était sa sœur qui a décrypté le texte. Donc je vois pas du tout pourquoi il aurait menti, quoi. Voilà. Et vraiment, on a l'impression d'une union charnelle, d'une passion. Évidemment qu'il était amoureux de l'écrivain, de ses livres, etc. Et que Duras a accueilli ça très... Très heureuse, quoi, d'avoir un jeune amant totalement admiratif, etc. Mais il y avait quelque chose entre eux qui était de l'ordre de la passion.
Des corps, quoi.
Ouais. Et c'est pour ça que je voulais absolument que dans le film, on voit quelque chose de la sexualité et que les dessins me paraissaient la seule manière de le faire.
Pourquoi ?
Bah parce que sinon, j'aurais dû filmer comme... voilà, Bruno Dumont, il avait pris des acteurs X pour... Moi, j'avais pas du tout envie. Puis je voulais le corps entier. Je savais pas comment faire, si ce n'est par le dessin, quoi. Parce que dans le dessin, on pouvait avoir Duras et Swann Harlow, qui jouait Yann Andrea. Et on pouvait travailler quelque chose que Judith a vraiment réussi, qui est l'élan amoureux, sexuel, mais l'élan. Parce que nous, on a beaucoup regardé des œuvres comme ça, de Picasso, de Egon Schiele, de plein de gens là-dessus. Et c'était toujours des hommes qui dessinaient ça. Donc, ils montraient la prédation, la possession... moi, ce que je trouve qu'elle a vraiment réussi, c'est que c'est tout le temps des mouvements.
Ouais, c'est un mouvement.
Ouais. Et ça, c'est formidable. C'est très, très beau, quoi. Ouais, c'est ce que je voulais, vraiment.
Votre prochain choix ?
Alors, mon prochain choix, C'est alors là, cet été, j'ai lu 2666
de Roberto Bolaño.
Alors, j'ai choisi de lire la fin parce que on dit que Bolaño, c'est un livre qui n'est pas terminé.
2666.
Ouais. Et moi, je suis pas d'accord. Voilà. Et puis on a dans la fin un petit. Alors où est-ce que je m'étais dit ?
J'en profite pour dire que donc c'est un roman
qui fait 1162
voilà,
pages,
qui est traduit vers le français par Robert Amutio.
Voilà.
Que Bolaño, il est chilien. Il est né en 53 à Santiago du Chili et il est décédé en juillet 2003 à Barcelone.
Voilà. Et c'est dommage parce qu'il c'était vraiment un auteur extraordinaire.
Et c'est un livre qui a paru en effet à titre posthume, considéré par beaucoup comme inachevé, sauf par vous, Claire Simon.
Voilà. Mais parce que je m'attendais à quelque chose d'autre. C'est vraiment un livre, tous les soirs, chaque instant, je me disais vite que je retrouve 2666.
Ouais.
Vite, vite, vite. Et donc, il est fait de différentes parties. Extraordinaire. J'ai même dit à Frédéric Weisman que Bolaño, il écrivait comme lui, il faisait des films, que ça, dans les ruptures, dans, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Et donc, il y a, c'est l'histoire. Alors, le premier livre, c'est le livre des critiques qui cherchent Archimboldi, qui est le romancier qu'ils adorent, qui est inconnu, etc. Ensuite, il y a la partie d'Amalfitano qui est un professeur qui est au Mexique, parce qu'ensuite ça va au Mexique. La partie de Fate, dont je pense que c'est vraiment, on pourrait en faire un film, c'est formidable. Lui, c'est un journaliste américain, noir américain, et c'est génial parce qu'on ne se rend pas compte qu'il est noir avant, je sais pas, quelques dizaines de pages, qui va enquêter sur cette histoire des crimes, c'est-à-dire que ça, tout se passe dans une petite ville au nord du Mexique où des femmes sont tout le temps tuées, quoi. Et ensuite, la dernière partie, c'est la partie d'Archimboldi. Et là, on retourne en arrière, c'est quand il va à la guerre, tout ça, et ensuite. Mais ce qui est... C'est vraiment extraordinaire parce que il prend énormément de détails, c'est un polar, quoi. Mmh. Mais toujours, il y a cette ligne des crimes, quoi, qui est vraiment des crimes de femmes et qui se résout de façon absolument terrible. Et donc, comment dire, c'est tout à la fin, il rencontre un type, voilà, qui lui dit... Il parle d'un de ses ancêtres. Probablement, puisque ce n'était pas un saint, pas même un homme courageux, pensa-t-il en effet à la postérité, au buste, à la statue équestre, aux in-folios conservés pour toujours dans une bibliothèque. Ce à quoi il n'a jamais pensé, c'est qu'il passerait à l'histoire pour avoir donné son nom à une combinaison de glace aux trois parfums. Ça, je peux vous l'assurer. Alors, que vous en semble-t-il ? Je ne sais pas en quoi en penser, dit Archimboldi. Plus personne ne se souvient du Fürst Pückler botaniste, personne ne se souvient du jardinier modèle, personne n'a lu l'écrivain, mais tout le monde, à un moment ou un autre de sa vie, a savouré un Fürst Pückler. Une glace qui est particulièrement tentante et savoureuse au printemps et en automne. Et pourquoi pas en été, dit Archimboldi, parce qu'en été, ces glaces sont assez écœurantes. Ce qu'il y a de mieux pour l'été, ce sont les glaces à l'eau, pas celles au lait. Soudain, l'éclairage du parc s'alluma, mais il y eut une seconde d'obscurité totale, comme si quelqu'un avait jeté une couverture noire sur certains quartiers de Hambourg. Le monsieur distingué poussa un soupir. Il devait avoir dans les 70 ans. Puis il dit « Quel héritage mystérieux, vous ne croyez pas ?»« Si, si, c'est ce que je crois, en effet, » dit Archimboldi, tout en se levant et prenant congé du descendant de Fürst Pückler. Peu après, il quitta le parc et le lendemain matin, il partit pour le Mexique. Et ben moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est vraiment le point final absolu, quoi. Il part pour le Mexique, donc c'est clair qu'il va retrouver toute l'histoire que tous les personnages ont passé leur temps à chercher, et voilà.
Ça vous intéresse, ces questions-là de construction ? Tout à l'heure, vous me disiez, je fais le prémontage. Donc c'est ça, c'est de l'écriture, le prémontage. C'est pas rythmique, c'est que ça. Bon, il paraît que Bolaño, c'est vraiment genre un maestro de la construction romanesque.
Ouais, mais c'est extraordinaire.
Est-ce qu'on pique des trucs ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent inspirer des manières de raconter des histoires, Claire Simon ?
Bah, j'aimerais bien, mais le cinéma est très, très réticent... C'est difficile, mais là, par exemple, ça, je trouve ça, c'est une espèce de manière de finir comme ça, avec et voilà quoi, c'est fait. Il part pour le Mexique, Archimbold. C'est ce qu'on a attendu pendant 1163 pages.
Et par ailleurs, on n'est rien de plus qu'un pauvre nom de glace et que c'est
voilà,
de ça.
C'est, pas c'est bon génial.
C'est pas grand-chose.
Non, mais
on pas grand-chose.
Ce qui est formidable, c'est que voilà, c'est là où il ressemble à Weissmann. C'est-à-dire qu'il se met à parler des glaces pendant 3 pages, que franchement, on s'en fout complètement. À la... et souvent, d'ailleurs, il est très précis sur la nourriture dans ce livre, Bolaño. Ouais, ouais. C'est très intéressant. Mais c'est cette manière de faire des digressions et de revenir à l'intrigue centrale qui est vraiment éblouissante dans le livre. Et par exemple, je voulais vous lire un morceau de Conrad, mais je ne l'ai pas retrouvé. Par exemple, un des trucs, mais bon, c'est assez classique au cinéma, mais j'adorais chez Conrad le fait que, mais je crois que c'est dans Le Nègre du Narcisse et pas dans Typhon, où il dit, terrible, il y a une tempête, etc. Ok. Et puis, et les Alizés reprirent. Et voilà, c'est réglé. On est sorti de l'affaire, les Alizés, hop, on y va, quoi.
Rupture.
Voilà, ouais. Génial, quoi.
Ouais, hyper beau.
Ouais.
Rythmique.
Voilà.
Votre dernier choix s'est porté sur Fernando Pessoa. Peut-être on dit ce que c'est, ce texte de 1928 de Pessoa.
Donc, Pessoa était un poète qui était très peu édité, qui était un monsieur qui travaillait dans le bureau des douanes. Et voilà, son truc, ça a été de fabriquer des hétéronymes. C'est-à-dire qu'il a fabriqué des personnages qui étaient des écrivains et il a écrit selon chaque personnage. Donc ici, c'est Alvaro de Campos, un poète très... plutôt joyeux, plutôt...
Mais à chaque fois, c'est lui.
C'est lui, mais
sous un angle différent.
Voilà, il y a Bernardo Soares, celui qui a écrit le livre de l'intranquillité. Il y a Carnero, il y en a qui ont fait des grosses œuvres et d'autres des petites.
Ça vous a tenté un jour de porter un autre nom que le vôtre ? Enfin, d'avoir un pseudo de cinéaste ? Pour faire autre chose, pour faire vous, pour faire votre œuvre, mais d'un autre côté, je sais pas. C'est hyper marrant, c'est
ouais,
tentant en même
ouais,
temps.
Ouais, c'est tentant. C'est tentant. Mais enfin, comme
vous
moi...
Vous avez
mais...
un sourire qui me laisse entendre que ça se trouve, on a vu des films de quelqu'un qui serait vous.
Mon oncle, il a fait ça. Oncle Esteban, il a écrit un livre sous un... C'était au moment de Jarry et tout ça. Il a écrit un livre sous un autre nom. Mais moi, j'ai eu tellement de mal, j'ai tellement de mal à produire mes films que prendre un autre nom, c'est recommencer à zéro.
Et non, merci.
Et c'est tellement dur que... voilà.
Profitons de l'aura du nom Claire Simon.
Non, mais il n'y a pas d'aura, mais il y a un peu des gens qui me connaissent, quoi. Je ne suis pas comme... Si j'étais Spielberg, ça, c'est pas pareil.
Ouais, il pourrait s'amuser un peu.
Il pourrait faire des films expérimentaux, tout ça, ça serait sympa. Mais...
Donc, Bureau de tabac.
Je vais faire le début et la fin. Okay. Tant pis, il me pardonnera. Hein.
Ok.
Je ne suis rien, je ne serai jamais rien, je ne peux vouloir être rien, cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde. fenêtre de ma chambre, de la chambre de l'un de ces millions d'êtres dont personne ne sait rien. Et si l'on savait, que saurait-on ? Vous donnez sur le mystère d'une rue constamment envahie par la foule, sur une rue inaccessible à toute pensée, réelle, réelle au-delà du possible, certaine, inexplicablement certaine, avec le mystère des choses par-dessous les pierres et les êtres, avec la mort qui moisit les murs et blanchit les cheveux, avec le destin qui mène la charrette de tout sur la route du rien. Aujourd'hui, je suis vaincue, comme si je savais la vérité. Aujourd'hui, je suis lucide, comme si j'allais mourir, comme si je n'avais aucune autre fraternité avec les choses que celle de l'adieu, alors que cette maison et ce côté-ci de la rue deviennent un train qui s'ébranle, un sifflement au-dedans de ma tête, une secousse dans mes nerfs, un graissement d'os à l'instant du départ. Aujourd'hui, je suis perplexe comme un homme qui a pensé, trouvé, puis oublié. Aujourd'hui, je suis partagée entre la loyauté que je dois au tabac d'en face, chose réelle au dehors, et à cette sensation que tout est rêve, chose réelle au dedans. Alors je coupe, pardonne-moi, Fernando Alvaro, et je vais passer à la fin.
Que tout est rêve, chose réelle au dedans.
Oui. Mais un homme est entré dans le tabac pour acheter du tabac. Et la réalité plausible soudain s'abat sur moi. Je me relève, à moitié énergique, convaincu, humain, et j'ai bientôt l'idée d'écrire ces vers où je dis le contraire. J'allume une cigarette avec la pensée de les écrire et je savoure dans la cigarette l'affranchissement de toutes mes pensées. Je suis des yeux la fumée comme si c'était le tracé d'une route. Et je jouis, dans un éclair de sensibilité et de clairvoyance, de m'être affranchi de toutes les spéculations et de prendre conscience que la métaphysique n'était que la conséquence d'une indisposition. Ensuite, je me renverse sur ma chaise et je continue à fumer. Tant que le destin me le permettra, je continuerai à fumer. Et si j'épousais la fille de ma blanchisseuse, je serais peut-être heureux. Sur ce, je me lève d'un bond, je m'approche de la fenêtre. L'homme est sorti du tabac. A-t-il mis la monnaie dans sa poche ? Mais je le reconnais, c'est Estève sans métaphysique. Le patron du tabac est revenu sur le seuil. Estève, commu par un instinct divin, s'est retourné et m'a vu. Il m'a fait signe de la main, je lui ai crié « Salut Estève !» Et l'univers s'est reconstruit autour de moi, sans idéal et sans espoir. Et le patron du tabac a souri.
Beaucoup de mouvements aussi.
Ouais, mais c'est le réel. Qu'est-ce que c'est que le réel ? Le réel, enfin c'est rien, si on ne lui pose pas de questions. Mais... Donc il y a lui et ses rêves fous, etc., où il a l'impression qu'il n'arrive jamais à rien. Et puis il y a le bureau de tabac en face, quoi.
Et que tout se reconfigure autour d'un homme qui rentre.
Voilà. Et qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a pas de rêve là-dedans. Il n'y a que Estève sans métaphysique,
ouais.
Voilà.
Ouais. Et que les choses peuvent... Oui, c'est... D'ailleurs, il dit, il pense, il fume, ça lui permet d'effacer les pensées, et hop, quelqu'un rentre.
Voilà. Et c'est un peu le désarroi devant lequel on est souvent si on décide de faire un film documentaire, par exemple. On peut se dire, c'est rien, quoi. C'est que le réel, quoi. C'est rien. Je me souviens d'une fois où Raymond Depardon m'avait aidé pour un film qui s'appelle Coûte que coûte. Il m'avait même proposé de me prêter sa caméra. Et lui, il tournait Délit flagrant. Et il avait laissé sur mon répondeur un message en me disant « voilà, on a tourné, voilà. C'est le quotidien, quoi. C'est l'ordinaire, quoi. » Voilà.
Alors que ce film montre avec tellement de de saillant un réel qui n'est pas tout à fait l'ordinaire, mais qui est aussi l'ordinaire, c'est là où il a raison.
Oui. Mais c'est notre mouvement, c'est-à-dire on va, et c'est ce que raconte Pessoa d'une certaine manière, on va dans un monde qui est comme ordinaire, magma, quelque chose. Évidemment, on voit plein de choses, on essaye de les filmer, mais c'est parce qu'on prend ce recul après et qu'on voit ce qu'on a fait, que alors ça commence à exister, quoi.
Et la boucle est presque bouclée, parce que vous venez de lire votre dernier extrait avec ce qu'on disait au tout début de Camille Laurence, qui relève à 15 ans d'intervalle le mot épuisé. Elle voit.
Voilà.
Ouais. Voilà. Dans le réel. Elle fonctionne.
Voilà.
Le truc dans le
voilà.
Réel.
Voilà.
Merci beaucoup, Claire Simon, d'avoir déballé pour nous cette bibliothèque, et on va tourner une minute où on ne parle pas. Pour le montage.
You didn't teach me, I taught myself through you. You didn't heal me, but I healed from the things that you do. We didn't want each other, baby. We wanted something so much more. To feel the rarest of feelings, that which opens all doors. Don't shut them all too quickly, there might not always be more. I'll spread your love so thickly, so I can reminisce some more. Only when I can't breathe, only when I wanna believe, only when it's late at night, only when I don't feel right, only when I touch my body, only when I'm feeling naughty, only when you're far away, far away, far away.
Au revoir, Claire. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Oh, très bien.
Merci,
ne prenez pas froid.
Alors, j'ai 7 étages pour vous dire qu'à la prise de son, aujourd'hui, c'était Florent Layani. Au mix, un peu plus tard, ce sera Olivier Arnay. À la réalisation, Anna Holweck. Vous pouvez réécouter ce book club et tous nos autres portraits de bibliothèque sur franceculture.fr et retrouver sur la même page toutes les références des textes cités par Claire Simon. On est arrivé. Un grand merci à toute l'équipe du book club.
Oh,